Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau dimanche magnifique, dimanche matin. On vous accompagne tranquillement, vous êtes certainement au petit déjeuner, peut-être sur la route des vacances, faites très attention à vous. Bref, on s'occupe de tout ce matin et on va tenter de vous divertir, évidemment, sur notre passion, le sport. Au sommaire aujourd'hui, la crise de nerfs à Madrid. Pour la première fois depuis 20 ans, le Real Madrid a été sorti en quart de finale cette semaine de la Ligue des Champions. Une première saison donc mitigée pour Kylian Mbappé. Son arrivée est-elle toujours une bénédiction pour le Real? On se posera la question, ce sera la une des GG. 10h, l'OM qui reprend sa marche en avant et récupère sa place de dauphin du championnat. Cette victoire face à Montpellier, est-ce que ça efface la crise? Ce sera notre bras de fer, les GG ne sont pas d'accord. Et puis 11h, Ferrari court toujours après son premier podium de la saison. Ce sera peut-être tout à l'heure en Arabie Saoudite. Les pilotes sont frustrés, vous allez les entendre aussi dans cette émission. Est-ce que ça sent la saison Qatar? Là aussi, mes GG, vous n'êtes pas d'accord. Et puis nous reviendrons dans cette émission sur les propos hier de Bernard Hinault sur le dopage. C'était dans les grandes gueules du sport, ça a été repris partout. Des propos qui ont énormément fait réagir. Donc évidemment, vous allez pouvoir vous aussi réagir. Alors il fête aujourd'hui ses 60 ans, sachez-le, cher GG, il incarne les GG depuis plus de 10 ans, on va l'appeler tout à l'heure, enfin s'il est réveillé parce qu'il a fait la fête hier soir, on va lui rendre un hommage ce matin. Monsieur Christophe Cessieux, évidemment, il n'est pas avec nous, mais il est dans notre cœur, 60 ans. C'est pas rien, hein. Vivement, évidemment, la retraite. Alors je vous présente, évidemment, selon Christophe Cessieux, une grande gueule qui, comme Christophe Cessieux, les GG, c'est sa planque. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
La soupe est bonne?
La soupe est bonne, ben oui, je suis ravi d'éponger les cuites de Christophe Cessieux pour son année. Ben, je suis là pour ça, Christophe.
Exactement. Dès qu'il a une fête, il dit, oh, j'aimerais bien prendre mon samedi ou j'aimerais bien prendre mon dimanche parce que là j'ai une fête. Et il y a
Camembert, hein.
Et il y a Simon.
N'hésite pas, Christophe, il faut faire la teuf à 60 ans, il faut en profiter, je suis là.
Une grande gueule qui, comme Christophe Cessieux, on l'appelle le Goré, mais pas pour les mêmes raisons. Faut voir son hygiène de vie cata, hein, Cessieux. C'est Philippe Saint-André. Salut Philippe.
Salut JC, bonjour à tous.
Tu es d'accord? Je veux dire, Cessieux le matin, c'est, c'est viennoiserie, c'est Coca-Cola, c'est,
Coca-Cola, pardon. Beaucoup de Coca-Cola.
Oui, je vais citer aussi Orangina et, Yakuza. Et Fanta, voilà. Pour que personne ne soit jaloux. De toute façon, il mélange tout d'un coup et il prend tout. Voilà. Tout va bien, mon Philippe?
Super, super.
Toi, t'es plus jeune, hein, que Christophe, hein. T'as fêté ton anniversaire hier, encore bon anniversaire.
Ouais, mais, bon.
Mais ça n'a rien à voir, t'es un tout jeune, quoi.
Il y a pas beaucoup d'écart, quand même.
Si.
Après, je dirais pas 60 ans, il a 3 fois 20 ans, quand même.
Ouais, c'est ça.
Notre ami Christophe.
Ouais. Bah, il les porte bien, en tout cas. Une grande gueule qui, comme Christophe Cessieux, elle vient du Sud, et visiblement, ils ont une spécialité, oui, là-bas. Ils bouffent le micro. Mario Bartoli, salut Mario.
Bonjour les amis, comment ça va? Ça va très bien, et vous?
Quel plaisir de te retrouver. Ça fait un bail, Marion, qu'on ne s'est pas eu.
Mais oui,
ça.
Mais tu veux plus de moi, écoute.
Mais non,
que je te dis.
Mais oui, mais attends, t'étais un jour à Rio, un autre
exclue
à De Janeiro. Enfin, je veux dire, t'es partout dans le monde, cher Marion. En tout cas, on est ravis de te retrouver aujourd'hui. Et puis une grande gueule qui, comme Christophe Cession, se demande comment il fait, hein, pour durer aussi longtemps. On a peut-être une petite idée, hein, là. La seringue, Jérôme Pinault, salut Jérôme.
C'est le running gag, ça va? Si c'est vraiment le genre, tu m'avais manqué.
Ben oui, moi aussi, je suis très en forme. De toute façon, quand je vous vois, je suis. Voilà, j'ai envie d'en découdre, j'ai envie de rire, j'ai envie qu'on y aille.
On doit être bien plus en forme que Christophe Cessieux ce matin, parce que déjà qu'il est pas chaud le dimanche matin. Alors là, avec ce qui s'est mis hier, à mon avis.
Ah non, mais là c'est
ce matin, ça doit fumer noir.
Préparer une surprise et tout ça. Enfin bon, bref.
Ah ouais.
Et
nous, on n'a pas été invités par contre. T'as reçu le carton, toi?
Non, parce qu'il invite les amis visiblement.
Ah, donc c'est
juste les gens qu'il aime. Ouais.
T'inquiète pas, il est pas sûr de continuer la saison prochaine. Enfin, on sait de toute façon qu'il nous aura tous. Hein. Christophe Cessieux, on l'aura dans cette émission. Enfin hier, j'ai envoyé un petit texto. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien quand même qu'on t'appelle? Tout
un
ça.
Gêleur.
Okay, voilà, exactement.
Il a dit quoi? 11h30?
Bah, exactement.
11h30, oui.
On l'appellera 11h30 parce qu'il a envie de revenir sur les propos de Bernard Hinault hier dans les GG. Donc il sera avec nous à 11h30. Et évidemment, on pourra le charrier, notre ami Christophe Cessieux. Allez, on va débuter cette émission avec un proverbe espagnol. C'est de circonstance avec Kylian Mbappé. Ce proverbe espagnol qui dit: si tu veux le chien, accepte les puces.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Vous n'êtes pas content? Triplé.
Mbappé,
opportunité de contre-attaque, peut-être le travail de Kylian Mbappé. Et il y a eu une faute sur Declan Rice.
Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Kylian Mbappé n'a pas semblé jouer le ballon sur cette action. Kylian Mbappé qui reste au sol.
Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Il a été moche la séquence de Mbappé qui a pas fait le bon choix offensivement avant de se faire justice derrière et de faire une faute grossière d'attaquant.
Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
Et le problème, c'est Mbappé, là, il veut en faire trop, passement de jambes.
Le football, il a changé.
Quand je le vois depuis le début de sa carrière au Real Madrid, je me dis que en fait, il y a un gros problème dans la remise en question. Parce que la remise en question, il ne sait pas ce que c'est.
Hay cosas que son más importantes que dinero. Y yo quería jugar para el Real Madrid.
C'est parti pour Kylian Mbappé qui va ouvrir son pied. Ah, oh, c'est arrêté.
Non,
incroyable, c'est arrêté par Keller qui s'est parfaitement couché sur sa gauche. Et Kylian Mbappé qui met sa tête dans ses mains.
Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Mbappé.
Il est venu pour tout gagner. Ce ne sera pas la Ligue des Champions cette année. Kylian Mbappé est en train de vivre une première saison compliquée avec le Real Madrid, entre méformes en début de saison, intégration difficile, équipe en fin de cycle, mais quelques coups d'éclat tout de même. L'international français n'a pas pesé dans la saison des Madrilènes. Pire, il faisait mieux sans lui. Attention à ce que la Maison Blanche ne se transforme pas en saison blanche. Arrigo Sacchi, le célèbre entraîneur italien, a même déclaré cette semaine, ils ont signé un attaquant, en l'occurrence évidemment Mbappé, qui était censé être un phénomène, mais il n'a pas joué comme tel. La musique qui fout les jetons. Et cette question, l'arrivée d'Mbappé au Real est-elle toujours une bénédiction? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marion Bartoli?
Oui.
Philippe Saint-André?
Non.
Jérôme Pineau?
Non.
Trois noms, un oui avant de débattre. On va retrouver notre correspondant à Madrid, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut les GG, salut tout le monde.
Alors comment à Madrid on juge cette première saison de Kylian Mbappé, saison qui n'est pas terminée évidemment?
On la juge sévèrement. La preuve, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du public à sa sortie sur blessure face à Arsenal. Ce qui lui est reproché ici, c'est surtout d'avoir disparu dans beaucoup de grands matchs cette saison. Le Real a disputé 9 chocs en Ligue des Champions contre des cadors européens. Il est resté muet 7 fois. Les supporters l'attendaient depuis des années et forcément, ils ne sont pas satisfaits. Écoutez.
Il a très mal joué, la performance de Mbappé était très décevante, j'espérais beaucoup plus, comme un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il a disparu sans rien faire, c'est très décevant, il ne peut pas continuer comme ça. Mais en même temps, toute l'équipe a mal joué, Rodrigo ou Vinicius par exemple, toutes les critiques sont sur Mbappé alors que toute l'équipe est mauvaise.
Eh oui, Kylian Mbappé, c'est le coupable facile. La saison dernière, ils ont tout gagné. Et cette saison, ça ne marche plus avec lui dans l'équipe. Mais ici à Madrid, celui que l'on pointe le plus du doigt, c'est Carlo Ancelotti. Même Thibaut Courtois, le gardien, a critiqué le jeu offensif de son équipe après la rencontre.
On a eu beaucoup de mal à créer du danger. Et arrivé, Rodrigo, Vinicius ou Kylian étaient 1 contre 2 ou 1 contre 3, c'était difficile. Et on a fait beaucoup de centres, mais on n'avait pas de joueurs très grands. On n'a plus Rossellou cette année pour reprendre ses centres dans la surface.
On n'a plus de Rossellou. Beaucoup y voient un tacle à Kylian Mbappé. En Espagne, on se dit que ce Kylian Mbappé-là est toujours très loin de Cristiano Ronaldo. Mais attention à ne pas avoir les mémoires courtes. Pour la première saison du Portugais à Madrid, le Real n'avait remporté aucun titre et avait été éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions.
Merci beaucoup Edgar Grollo. Tu restes avec nous pour ce débat. On parle de Kylian Mbappé. Et puis vous nous direz aussi les GG si c'est injuste. Le coupable désigné, vous l'avez entendu dans la bouche des supporters madrilènes, le 32-16 pour participer à cette émission. Cette arrivée est-elle toujours une bénédiction pour le Real, cette arrivée de Kylian Mbappé? C'était un non pour toi, Jérôme Pineau, pourquoi non?
Bah non, pour l'instant, il faut constater les faits. Il n'a pas transformé cette équipe. Cette équipe ne s'est pas trouvée avec à sa tête ce joueur-là. Il est l'un des tout meilleurs joueurs du monde lorsqu'il arrive. On le présente comme tel. Il est comparé et normal à Cristiano Ronaldo, à Karim Benzema, les joueurs qui font basculer les grands matchs, qui font basculer les résultats en faveur de Madrid. On le sent dans sa manière de jouer et aussi, et c'est ça surtout je pense qui fait du mal aux supporters madrilènes et qui fait monter un peu la pression là-bas à Madrid, c'est son comportement, son attitude et le fait de disparaître des grands matchs sans avoir l'attitude d'un leader. On voyait Benzema haranguer ses coéquipiers, on y va, il marquait des buts mais il jouait, il descendait bas. Là, il s'est pas battu. On sent qu'il y a un garçon qui est là. Et évidemment, quand on n'attend que lui, bah, il n'a pas le comportement du sauveur. Madrid n'attend que ça. Ils sont entrés sur le terrain cette semaine en se disant, bon, on va faire la remontada, Kylian va nous sauver. Ben non, Kylian, il n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendent. Donc, pour le moment, encore une fois, on va pas condamner Kylian Mbappé, mais on peut d'ores et déjà dire que sa saison, sa première au Real Madrid, est quand même très mitigée, voire ratée, et que ça n'est pas pour le moment, pour le Real Madrid, une bénédiction de la part de Kylian Mbappé.
Ok, Marion n'est pas d'accord, Marion.
Non, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, ça a été dit par Edgar. On va quand même se remémorer les débuts de saison de Cristiano Ronaldo, parce qu'effectivement, la comparaison est vraiment flagrante. Cristiano, quand il arrive en 2009, il a un statut qui est au moins au même niveau que Kylian, voire un peu plus en tout cas sur les titres en club, sur le palmarès en club, parce qu'il est quand même Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue des Champions avec United. Edgar l'a rappelé, en 2009 de Vinicius, non seulement c'est une saison blanche, mais il perd en huitième de finale des Champions contre Lyon. En 2010-2011, il ne gagne pas la Ligue des Champions. En 2011-2012, il ne gagne pas la Ligue des Champions. En 12 et 13, il ne la gagne toujours pas. Il en gagne en 13 et 14, où ils font la fameuse décima. Donc, il faut lui laisser du temps. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il n'a pas les qualités de Karim Benzema. Il ne peut pas décrocher, il peut pas dézoner, il peut pas jouer dos au but.
Il joue pas son poste.
Exactement. C'est pas un neuf. Benzema était un vrai neuf. Bien sûr qu'il est capable, effectivement, d'avoir toutes les actions que je viens de décrire, parce que c'est un vrai neuf. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est un ailier, c'est un 7. Il a besoin d'espace, il a besoin de duel en un contre un au balle au pied, il a besoin de provoquer, il a besoin de déstabiliser une défense. Mais aujourd'hui, t'as Vinicius qui joue en 7, qui depuis les deux dernières années, effectivement, a tenu le Real Madrid. Donc tu peux pas dire à Vinicius, même si cette année il a été absolument horrible en termes de niveau de jeu, bah on va te dégager de ton poste. Donc t'es obligé de mettre Kylian Mbappé en 9, en se disant bah il va quand même marquer des buts. Alors il en a marqué 33. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que sur les grands matchs qui sont bien évidemment pour le Real, la Ligue des Champions, il n'a pas répondu présent, ça je suis totalement d'accord. Mais laissons-lui le temps. Il faut quand même se rappeler que le reste de l'équipe du Real Madrid est quand même décimé quand on voit les problèmes qu'il y a en défense. Aujourd'hui, le Real commence la saison avec Carvajal qui est blessé toute la saison latéral droit. Tu joues avec Lucas Vázquez qui est pas du tout un latéral droit, qui est un ailier droit.
On va revenir sur l'équipe,
toute
Marion.
La saison latéral.
On reste sur...
Et ouais, mais donc t'as des problèmes en défense qui sont colossaux. C'est pour ça Courtois râle. De toute façon, Ancelotti, fin de la saison, c'est merci, au revoir. Il va partir, il va pas rester. Donc, tu fais jouer Kylian Mbappé qui, oui, d'accord, arrive avec des grosses ambitions, mais pas à son poste, avec des énormes problèmes de défense. C'est difficile.
Simon Dutin et Philippe Saint-André.
Moi, je pense que ça n'a jamais été une bénédiction. On a évidemment souvent parlé lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Et je suis désolé, dans ce que dit Marion, il y a des paradoxes, il y a des choses contradictoires. Parce que, en effet, il arrive dans un club qui a reçu, redéveloppé, ressuscité une culture de la gagne. Cristiano, lorsqu'il arrive, en effet, le Real ne gagne plus, doit retrouver son luxe. Il y a quand même des tauliers au club. Il y a déjà des Sergio Ramos, des Raoul, des mecs avec qui il faut quand même s'habituer. Kylian Mbappé, il explique à tout le monde que c'est un buteur, que c'est un numéro 9. Il nous explique que c'est nous qui avons pas compris que il est pas fait pour jouer qu'il est fait pour jouer dans l'axe et que c'est un numéro 9. C'est quand même lui qui nous a vendu le joueur générationnel, le joueur qui veut laisser une trace dans l'histoire, le joueur qui un jour ira accomplir ses rêves au Real Madrid, qui ira tout gagner. Et tu l'as rappelé, le numéro 7 au Real, il appartient à Vinicius, voilà.
Pour
le patron de cette équipe, c'est Vinicius, celui qui était devenu quasiment.
Mais
je t'ai laissé terminer, Marion, donc tu vas me laisser terminer.
Ouais,
parce que Vinicius, il était le meilleur joueur du monde, indiscutablement. Il rinçait tout le monde. Il était irrésistible. Voilà. Et on lui met dans les pattes un Kylian Mbappé. Bah, c'est con, il joue au même poste que lui. Et Vinicius est devenu un pestiféré depuis l'arrivée de Mbappé. Vinicius, en fait, il avait les clés du frigo au Real. Il le partageait avec Jude Bellingham, et ben le frigo il s'est pas agrandi. Ils sont trois à manger dans un frigo qui nourrissait deux mecs.
Et encore, il y a portait... Passé au Real Madrid.
Et qui portait le Real Madrid. Jude Bellingham, il touche plus une cacahuète cette saison. Vinicius, c'est un pestiféré.
Vinicius, il est critiqué. Ballon d'Or, il a quand même pris un grand coup d'arrêt.
D'accord, mais sauf que Kylian Mbappé, il a prouvé. Et c'est parce que c'est un joueur immense qui a besoin d'accaparer l'attention et. Il faut être, si tu veux jouer avec Mbappé, tu dois être son valet. Voilà.
Exactement.
C'est voilà. Ce qui s'est passé par exemple.
On verra là-dessus.
Simon, juste sur ça, entre Vinicius et Kylian Mbappé, évidemment, le Ballon d'Or, ça a été très dur pour Vinicius, mais sur les dernières semaines, Kylian Mbappé, il provoque un pénalty contre l'Atlético, il provoque et un pénalty contre Valence. À chaque fois, c'est Vinicius qui tire et rate. C'est pas de la faute de Kylian Mbappé si Vinicius Junior a raté les pénaltys.
Philippe Saint-André.
Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Simon.
Ok, on reviendra là-dessus. Philippe.
Alors, pour moi, Kylian Mbappé, bien sûr que c'est un grand joueur, mais c'est le coupable désigné. Pourquoi ? Il part du PSG, le PSG marche, fonctionne, le vestiaire va très bien, la gestion des égos, il n'y a aucun problème. Et il part au Real de Madrid, et au Real de Madrid qui ont tout gagné, cette année c'est une saison compliquée, il y a des problèmes de vestiaire, il y a des problèmes d'égo. Donc c'est le coupable désigné. Voilà.
Mais alors c'est injuste ou pas?
Bien sûr que c'est injuste.
Il a bien voulu.
Il marque des buts, mais je trouve qu'il est de moins en moins bon dans sa communication. On a pu le voir aussi avec les problèmes avec l'équipe de France. Alors il a des qualités énormes. Après où je suis d'accord avec Marion, c'est qu'il faut qu'il joue à sa place. C'est un ailier, c'est quelqu'un qui va vite, qui a besoin d'espace. Mais pour les gens, pour le grand public, pour ceux qui sont même pas que des aficionados du foot, ils disent voilà, il était au PSG, il y avait des problèmes. Maintenant, il s'en va, le PSG va peut-être gagner la Champions League. Il est parti au Real de Madrid pour gagner la Champions League. Ils sont éliminés. Pour être Ballon d'Or, c'est foutu. Et tu te dis, il y a sûrement peut-être un problème d'ego et qu'il a du mal à rentrer dans un collectif. Voilà.
Un problème d'ego, non, mais est-ce que c'est pas le problème d'ego de Florentino?
Non, mais faut pas me dire que CR7 n'avait pas d'ego non plus. Non, mais faut pas me dire que CR7 avait aucun ego et qu'il ne jouait pas perso et qu'il n'était pas sur le terrain pour mettre que ses buts pour lui et que ses stats. Faut arrêter avec ses problèmes d'ego. Et là, je suis complètement d'accord avec Edgar sur Vinicius. Vinicius, Mbappé lui donne plein de pénalties, les envoie à Berlin à chaque fois. Je suis désolé, Vinicius, cette année, il est méconnaissable en termes de niveau. Qu'il ait tenu la Maison Blanche et qu'il a été capable d'amener des titres, je suis complètement d'accord avec toi, Simon. Il était transcendé sur ces deux dernières années. Mais Rodrigo est aussi quelqu'un qui échappe systématiquement aux critiques. On ne parle jamais de lui. C'est quand même quelqu'un qui est titulaire au Real Madrid.
Ils n'ont pas le même statut.
Attends, on parle d'un joueur qui est titulaire au Real. On parle pas d'un joueur qui joue en district. Il a mis un but lors des 19 derniers matchs. Je suis désolé, tu ne peux pas demander à un joueur de faire absolument tout pour toute l'équipe. C'est pas possible.
Le problème avec tout cela, c'est quand même qu'il ne faut surtout jamais, jamais, jamais oublier que la star d'une équipe, le mec qui a un ego de fou, qui veut être le centre du monde, il faut le prendre même quand ça va pas. Quand il fait ses grands discours, t'es pas content, 3-0, si t'es pas bon, t'es sur le banc. C'est maintenant qu'il faut qu'il le dise. Là, on l'entend pas là-dessus, parce qu'il est pas capable de cela. Sa blessure, ça l'a presque arrangé. Il est sorti par la petite porte la semaine passée. On voit des joueurs parfois qui insistent un peu, qui disent je vais quand même essayer. C'est le match de l'année. Lui pas. Ce qui me gêne chez lui, c'est que sa com elle est très bonne quand il va très bien, mais dès que ça va moins bien, il se défile. Et donc il assume pas son ego.
Mais ça c'est un problème de personnalité.
Un grand champion, quel que soit le domaine et quel que soit le sport, ça assume dans les deux sens, c'est-à-dire quand ça va bien et quand ça va mal. Et là, Mbappé, on parle encore une fois pour l'émission de ce matin de bénédiction. Ah ben non, c'est pas une bénédiction non, parce que il a quand même plus eu de bas que de haut cette année, et dans les bas, il est très mauvais dans sa com, il est très mauvais dans son attitude.
Ok, on continue d'en parler, je sais que vous voulez encore réagir, mais GG, vous aussi évidemment, vous venez participer à la discussion au 32-16, et puis supporters marseillais, on vous attend à partir de 10h, est-ce que pour vous, ça y est, la crise, c'est derrière vous, après cette victoire face à Montpellier hier? À tout de suite sur RMC, on poursuit la discussion.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h29 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Je le disais, à partir de 10h, on parle de l'Olympique de Marseille. Est-ce que la crise, ça y est, c'est derrière les Marseillais? Et puis nous reviendrons aussi sur les propos de Bernard Hinault hier dans cette émission. Propos qui ont beaucoup fait réagir. Ça, ce sera à 11h30. On a encore beaucoup de choses à vous dire dans cette émission et on va poursuivre la discussion sur Kylian Mbappé, son arrivée en Espagne. Est-ce que c'est toujours une bénédiction pour le Real Madrid? On se pose cette question ce matin. Il y a André qui veut réagir au 32-16. Bonjour André.
Bonjour.
Merci d'être avec nous André.
Bonjour.
Sois le bienvenu, on t'écoute.
Bah déjà, je voudrais dire que je suis très fan de Marion Bartoli depuis très longtemps.
Ça part mal, il y a un mail là, il y a un mail qui va arriver.
Non, aucun.
Ok, très bien, voilà.
Je suis complètement d'accord et qu'il raconte. Parce que en fait, on oublie un truc. Quelle est l'action? Quelle est la demande? Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant en fait? Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? On demande de marquer. On demande de marquer des buts. Vous pouvez critiquer, on peut dire oui, l'attitude, le comportement, etc. Mbappé, c'est le deuxième meilleur buteur de la Liga. Vinicius, il a 11 buts.
Non mais le but, c'est pas qu'il soit le meilleur de son équipe. Et alors le but, c'est pas qu'il soit le meilleur de son club, hein, c'est qu'il soit le meilleur du monde.
Donc en fait, on lui demande, oui, d'accord, donc qu'il soit le meilleur du monde au Real de Madrid avec des gars qui suivent pas.
C'est pour ça qu'il est là-bas.
Tout à l'heure, vous disiez, oui, ils étaient deux dans le frigo, maintenant il faut qu'ils soient, ils sont à trois à devoir manger dans le frigo. Bellingham, il en fait pas une, il fait pas mieux. Sérieusement, on veut taper sur.
Et pourquoi? Pourquoi alors Jude Bellingham? C'est juste parce que c'est donc Jude Bellingham ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est juste parce qu'il est pas au niveau cette saison et bah, donc
je suis d'accord avec André.
C'est une vraie question de fond. Et André, je te redonne la main dans quelques instants. Simon, c'est une vraie question de fond. Est-ce que Bellingham et Vinicius ont disparu parce qu'Mbappé, ou franchement c'est faire un mauvais procès à Mbappé de dire qu'ils ont disparu à cause de lui?
Il y a deux façons de voir les choses. Bellingham, moi je fais partie de ceux qui considèrent que il a fait 6 mois sur des standards qui ne sont pas ceux d'un joueur qui a les qualités de Bellingham. Voilà, il a mis beaucoup de buts et fait beaucoup de passes et été décisif. Voilà, pas surcoté, mais encore une fois, il s'est révélé numéro 10, 9 et demi, très efficace devant le but. C'est pas le poste auquel il a été formé, donc il y a des attentes qui ont été créées par ce début de saison l'an dernier, qui sont, je pense, un peu trop élevées. Donc, une fois que t'as dit ça, t'avais Vinicius et Rodrigo devant et Bellingham en faux neuf, très souvent pour débuter les matchs, qui permettait justement, avec sa formation de milieu de terrain, de redescendre dans le cœur du jeu et à Vinicius et Rodrigo de se projeter vers le but. Maintenant, ils sont trois devant lorsque tu fais la composition d'équipe. T'as perdu ton stabilisateur avec Toni Kroos et t'as ce milieu de terrain qui a perdu un petit peu d'équilibre et t'as trois mecs, en effet, qui doivent manger devant, là où il y en avait deux l'an dernier.
Très bien, mais est-ce qu'il ne faut pas en vouloir plutôt à la gourmandise de Florentino Pérez plutôt qu'à Mbappé?
C'est ce que je voulais dire. Je pense, et comme j'ai dit, ça n'a jamais été une bénédiction pour le Real qui est confronté aux limites de son modèle vampirique, le modèle qui consiste à attirer chaque fois qu'il y a un joueur qui domine en Europe, il faut que le Real Madrid l'achète et se l'approprie. Mais Marion, je suis désolé, tu fais le constat. À Paris, il a fallu vider Messi, il a fallu vider Neymar, il a fallu vider Verratti parce que il fallait faire de la place à Mbappé. Là, il va falloir vider Vinicius. Tu vas voir qu'il va finir par partir. Il va falloir vider Ancelotti, hein, ce naze qui est pas capable de faire briller la nouvelle recrue ou qui est pas capable de faire jouer tous ces mecs ensemble. Il faut, si tu veux cohabiter cohabiter avec Mbappé. Il faut être, je le répète, son valet, son serviteur, okay. Point barre.
André va réagir aussi, il y a Philippe qui veut prendre la parole.
Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord, cette équipe elle est pas équilibrée par rapport à la saison dernière. Alors Kylian Mbappé va croire que c'est le chat noir parce que au PSG il était là, ça fonctionnait
mais
pas.
Mais donnez-lui quelques années.
Oui, non mais le problème c'est que souvent le président veut prendre des stars mais c'est pas l'accumulation de stars qui fait un collectif. Et donc là l'équipe est moins bien équilibrée qu'elle l'était la saison dernière.
Ok, mais il faut pas.
Quand ils gagnent la Ligue des Champions, ils sortent pas non plus. Je vous rappelle, est-ce que vous vous rappelez quand même du Real quand ils gagnent la Ligue des Champions, des joueurs qu'il y avait sur le terrain? On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de stars au Real, mais ça n'était que ça d'avoir des stars au Real.
Bah donc, c'est quoi le problème alors?
Ben justement, mais le problème c'est qu'aujourd'hui t'as un déséquilibre défensif qui fait que, comme l'a dit effectivement Thibaut Courtois, t'as un déséquilibre défensif qui fait que tout est misé que sur l'attaque et que si les attaquants ne sont pas ultra performants, de toute façon t'encaisses des buts quasiment à chaque fois parce que ta défense est totalement déséquilibrée. Tu démarres la saison avec deux joueurs, Militao et Carvajal, qui sont censés tenir en défense, qui ne sont indisponibles pour la saison complète. Tu fais des joueurs en défense qui ne sont pas des défenseurs. Et tu t'appelles la Real Madrid.
Et en janvier, Florentino Pérez
s'est imaginé que, comme d'habitude, la Maison Blanche allait trouver des solutions, que, comme d'habitude, ils allaient s'en sortir et que, comme d'habitude, ça allait passer. Eh ben non, c'est pas passé.
André voulait réagir. André.
Non, mais clairement, enfin, juste encore une fois. Le Real de Madrid de l'année dernière.
Real Madrid. Tout le monde me dit depuis le début de l'émission Real de Madrid. Real Madrid.
Non, pas moi.
Tout le monde, ça va.
Real Madrid.
Vas-y.
Real Madrid de l'année dernière par rapport à celui-ci, effectivement, aujourd'hui, c'est une passoire défensive. Enfin, moi, suis pur Barça, hein, et je suis très content que ça se passe mal au Real. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Vous avez plus d'attaquants. Vous avez plus de buteurs. Enfin, y a que Mbappé qui ne joue pas à son poste. C'est ce que vous étiez en train de dire, en plus. Mbappé ne joue pas à son poste et il marque 22 buts. Vinicius est à son poste, il en marque 11. Bellingham, il en marque 8. Y a plus personne en défense. Le job au milieu qui tient à peu près. Enfin, pardon. À quel moment, en fait, Mbappé est responsable? Maintenant, j'entends que Ancelotti, c'est entraîneur merdique. Non, arrêtez. Ancelotti, il en gagne des Ligues des Champions. Et en plus, il en gagne avec le Real. Donc, il connaît la maison. Il sait comment ça marche.
Et pourtant, il va se faire vider. Après, il va être poussé vers la
Champions. Justement.
OK. Mais voilà. On peut toujujours remettre la faute sur quelqu'un, sur une personne. Là, c'est toute une structure qui ne va pas bien. C'est pas juste Mbappé.
OK. L'erreur qui ne va pas bien, depuis quand?
Je suis complètement d'accord.
OK. La structure qui ne va pas bien, Philippe.
L'erreur, elle est surtout du président qui a dépensé trop d'argent sur un joueur et que maintenant ils ont des problèmes en défense et ils ont plus d'argent dans le budget pour pouvoir acheter un défenseur. Ouais, et donc c'est Carlo Ancelotti qui va sauter. Donc parce que tu l'as vu en début de saison, il disait oui, on va essayer de trouver des solutions pour jouer avec trois attaquants. Il essaye, mais il trouve pas les solutions parce que l'équipe est pas équilibrée.
Justement, ton regard sur l'entraîneur qui est toujours la cible aussi des critiques, il y a pas que Kylian Mbappé, il y a Carlo Ancelotti. On va prendre les informations avec Edgar Grollo. On sait que ça a été une semaine, en tout cas une fin de semaine sous haute tension. Il a dû répondre évidemment devant la presse sur ces rumeurs de départ, Carlo Ancelotti, Edgar Grollo.
Ah oui, hier la conférence de presse c'était 10 minutes, il y a eu 9 questions sur 10 qui étaient évidemment sur son avenir alors qu'il refusait de répondre à ce sujet-là. Ce qui est une certitude a priori, c'est que le Real Madrid ne continuera pas avec lui la saison prochaine. Maintenant, reste à savoir jusqu'à quand il va rester. Voilà, est-ce qu'il va partir après la Coupe du Roi? Est-ce qu'il va rester pour la Coupe du Monde des clubs cet été? Mais en tout cas, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Carlo Ancelotti devrait quitter le club cet été.
C'est Xabi Alonso.
Évidemment, voilà, et surtout Xabi Alonso. D'ailleurs, Xabi Alonso qui est le grand favori évidemment pour ce poste. Maintenant, faudra négocier avec Leverkusen puisqu'il est en contrat jusqu'en 2026. Mais Carlo Ancelotti, on parlait évidemment de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti est le coupable le plus souvent désigné à Madrid parce que même avec tous ces problèmes d'effectifs, il y a quand même des vrais problèmes dans le jeu et c'est ce qui est souligné. Même si vous avez raison aussi de parler de Florentino Pérez et de la direction parce que. Oui, mais même avec Tchouaméni, avec.
Central, alors que c'est un milieu de terrain, s'il te plaît. Tu fais jouer Lucas.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait aussi énormément de blessés.
Mais oui,
il y avait énormément de blessés.
Non, mais tu peux pas remettre tout sur l'entraîneur. T'es obligé de faire jouer quand même Lucas Vázquez, qui est un ailier droit. Tu fais jouer toute la saison.
Mais il a joué toute sa carrière, Marion.
C'est pour ça que je dis.
Ça fait 10 ans qu'il n'est pas ailier droit, Lucas Vázquez. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué un match ailier droit.
Très bien, ça c'est pour les spécialistes. Il y a des émissions de la semaine. Ça c'est trop foot après si on commence à parler de Lucas Vázquez. Fini, Edgar Grollo.
Non mais il parle beaucoup de Carlo Ancelotti ici dans la presse et les supporters, mais il parle aussi, comme vous l'avez dit, de Florentino Pérez, de la direction, parce qu'on se dit clairement qu'il y a des manques dans cet effectif et que même si l'entraîneur est fautif sur beaucoup de choses, il y a aussi des manques dans cet effectif, il y a aussi des trous, et c'est vrai que c'est une question qui est posée par la presse espagnole. Est-ce qu'on aurait dû recruter Kylian Mbappé ou à ce poste-là, on avait déjà le deuxième meilleur joueur du monde de la saison dernière, ou est-ce qu'on aurait dû se focaliser sur d'autres postes? Ça, c'est évidemment une question qui se pose aussi ici à Madrid dans la presse.
Ok, merci pour ces informations. Jérôme Pinot, tu voulais réagir?
Non, mais on parle de la rumeur de l'arrivée de Xabi Alonso, Real Madrid. Ça va changer les choses. Vu le jeu pratiqué par Xabi Alonso, il va renforcer le milieu de terrain. C'est un jeu de possession, c'est un jeu de transmission. Ah bah donc là, ça va changer différemment et donc du coup peut-être un jeu différent avec des joueurs différents. Donc ma constatation et ma remarque, c'est encore une fois, Ancelotti il a tout gagné. Pourquoi changer d'entraîneur? À un moment donné, les joueurs.
On va voir l'entraîneur. Est-ce que c'est à chaque fois, t'en as marre de voir que même un entraîneur hyper capé, hyper reconnu dans le métier, ce soit le fusible?
Oui, mais souvent, l'équilibre d'un entraîneur, c'est dans les intersaisons et des fois, c'est d'être, pas exemplaire, mais d'être dur avec son président en disant oui. Peut-être qu'il nous faut qu'il ait un Mbappé, mais il faut me garder un budget pour un défenseur, pour un milieu de terrain, etc. Et des fois, quand tu perds ce bras de fer avec ton président ou avec tes décideurs sur le recrutement, et ben après, il n'y a pas d'équilibre. Après, tu es obligé de faire jouer un ailier en défense, etc. Ton équipe ne gagne pas. Et comme tu es le manager ou l'entraîneur, et ben tu es le premier fusible.
On en a l'exemple. Donc, souvent, ça sent souvent le vécu, ça. Tu l'as déjà vécu, ça.
Attention,
on va faire perdu. Attends, j'arrive, Marion.
Donc souvent, ton combat, il est plus dans l'intersaison avec les décideurs sur le recrutement qu'après dans la gestion humaine au quotidien. Et donc, moi, je me souviens de Didier Deschamps. On parlait beaucoup de Didier Deschamps, mais il est arrivé à Marseille. Il a imposé quelque chose et il a été champion de France.
On a l'exemple en France avec le Paris Saint-Germain. Hein.
Et donc, et sur Carlo Ancelotti, enfin, ce qu'il a fait, la carrière qu'il a, et là actuellement, on lui tombe tous dessus, alors que je pense que c'est pas lui le décideur des mauvaises décisions qui ont été prises sur cette intersaison.
Juste Edgar Grelot, rassure-moi, ils vont pas rappeler Zidane. Hein. Zidane, il est pour l'équipe de France.
Oui, non, je pense qu'on peut être serein sur ça.
On cite pas ça dans la presse espagnole. On n'est pas en train de se dire ah, mais si Zidane revenait. Non, bon, rassure-nous.
Non, il y a personne. Le nom de Zinedine Zidane n'a pas été évoqué. Il a été évoqué un petit peu de loin en début de saison quand il y avait des problèmes. Mais évidemment, depuis l'annonce de Didier Deschamps, il y a aucun.
Pas touche.
On parle pas du tout de
Zidane. Ok, on a bien compris. Bon, parfait, les copains. On a fait le tour de la question. Merci André d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous. Et à bientôt sur RMC. Tu n'hésites pas à nous rappeler dès que. Il y a Marion, hein, parce qu'on a bien compris que tu étais un grand fan de Marion. Donc dès que tu es d'accord avec elle, boum.
Revers coup droit demain, ça fait des amoureux, hein, c'est comme ça. Un qui n'aime pas le jeu et d'autres qui aiment, voilà.
Bon, sache André qu'on parle de tennis hein, à 10h30, donc évidemment tu pourras nous entendre et écouter Marion Bartoli. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. Oh, ça va plaire à Philippe, ça. Enfin, ça va plaire. Le sport va plaire à Philippe, mais peut-être que la déclaration ne va pas lui plaire. C'est Louis Bielle-Biarré qui n'ira pas au clash pour aller jouer en Nouvelle-Zélande. Et je sais que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite sur AMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h43, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec ce matin Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Philippe Saint-André, Simon Dutin. À partir de 10h, on ouvre le dossier olympique de Marseille, la victoire 5-1 face à Montpellier hier. Cette victoire efface-t-elle la crise? Vous n'êtes pas d'accord? Les GG, avant le zapping, avant le on s'en fout, on s'en fout pas, vous le savez, à 10h45, mes GG, vous prenez le contrôle de cette émission. Vous vendez un débat et ensuite c'est soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est à vous de voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré. Attention, je relève les copies maintenant. Vous avez 20 secondes pour nous vendre votre débat. Je vais aller voir Jérôme Pinault. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Il va quand même pas nous parler de vélo.
Eh ben non, je ne parle pas. Eh ben si, ça y est. Le président de l'UCI a trouvé la solution. Il va tester en fin de saison pour éviter ces chutes à répétition et limiter la vitesse. Ils vont limiter les braquets des coureurs cyclistes professionnels. C'est-à-dire comme en cadet ou en junior, quand on a 16-17 ans, on relimite les braquets pour freiner ces coureurs qui vont trop vite. Danger.
Je sens que tu es contre.
C'est la solution. Moi, je suis totalement contre. Je trouve ça une idée si terrible, mais venez en débattre avec nous.
Ok. Bon, c'est aussi un garçon sérieux, Philippe Saint-André. J'imagine qu'il va quand même pas nous parler de rugby.
Et si, bien sûr. Mais de rugby féminin. Les Françaises ont gagné en Italie hier. Elles sont à 4 victoires et donc elles vont avoir l'opportunité de jouer à Twickenham la semaine prochaine pour un grand chelem. Alors elles vont jouer contre l'équipe d'Angleterre qui elles aussi ont gagné 4 matchs. Il y a 2 ans, il y avait 60 000 personnes à Twickenham. Est-ce que les Françaises vont pouvoir faire le grand chelem tout en sachant que les Anglaises ont fait le grand chelem les 5 dernières...
Et oui, c'est
le
plafond de verre l'Angleterre.
Les 5 dernières saisons. Donc, mais elles s'offrent une finale incroyable à Twickenham la semaine prochaine.
Ok, le tournoi destination féminin, si vous voulez en parler, vous allez voter pour Philippe Saint-André sur le compte X des grandes gueules du sport.
Il y a une question, c'est savoir si on est content, si on n'est pas content, si on y croit.
Il n'y a pas forcément de question, mais il faut qu'on en parle. Voilà. Et il trouvera sa question dans quelques instants. Fais gaffe.
Est-ce qu'elles ont une chance de faire le grand chelem? Voilà la question.
Voilà. Merci. Non, mais rentre-lui dans l'art, s'il ne te plaît pas, hein, Philippe, il n'y a pas de problème. Bon, là, je vais peut-être avoir un peu de chance. Tu es une personne sérieuse, Marion, tu vas quand même pas nous parler de tennis.
Eh ben si, parce que la situation est trop grave. J'ai envie de vous dire, alerte générale, c'est plus possible. À bientôt, on va trouver du pétrole. Mesdames et messieurs, je vais vous dire comment redresser le tennis féminin français. Et il y a du travail.
Tu vas nous dire comment, c'est pas un débat. Ah oui. Quoi. Tu vas nous expliquer comment il faut faire.
J'ai un plan de bataille. Tout est écrit, tout est prêt, tout est préparé.
Alors franchement,
je vais vous donner les solutions, mesdames et messieurs.
La semaine dernière, on avait zéro solution, il n'y a plus de base.
Il y avait Julien Benneteau
qui était dans l'émission.
Julien Benneteau. Julien Benneteau est venu expliquer les raisons du problème et vous l'entendrez dans cette émission.
Le naufrage.
Donc,
Marion, je vais voter pour toi.
Franchement, ça m'a interpellé aussi. Attendez, parce qu'il y a encore Simon. Simon qui va nous parler aussi de sa spécialité.
Simon, essaye de faire plus que 6%.
Bah, justement, je vais vous parler de mon précaré. Mon fonds de commerce, je vais vous parler de MotoGP.
Oula.
Voilà.
Ah.
Voilà. Je vais vous demander si l'ultra domination de Marc Marquez sextuple. Septuple, ça fait 6. Si tu de, on dit comment
Sextuple.
Bon,
six fois champion du monde de
MotoGP, mais la dernière fois c'était en 2019. Il passe chez Ducati, l'écurie de Bagnaia, double champion du monde, et il rince tout le monde. 3 victoires en 4 courses. Il est déjà leader du championnat du monde, et quand il ne chute pas en course, il paraît imbattable sur a priori la meilleure machine. Je vais vous demander si vous êtes ravi de voir cette domination, ou si au contraire vous êtes un petit peu déçu parce que
ça sent le... en moto, quoi.
Ouais, ça sent un peu le manque de suspense. Bah, je sais pas, Bagnaia, il a la même moto.
T'es sûr que ça fasse 6%, ça, dis donc, comme
bah,
sujet.
Ça peut gagner. Hein,
ça voilà. Peut faire 4. Ça peut faire 4.
Méfiez-vous.
C'est sextuple.
Alors, sextuple, c'est bien.
Il faut quand même dire qu'on fait face à madame la ministre du tennis qui va nous expliquer comment le tennis va. Je pense que là, moi, j'ai hâte qu'elle m'explique.
Ah, il y a de grandes chances que Marion s'impose.
Vu d'où ça part, moi, j'ai hâte qu'elle m'explique. J'espère que t'as un plan sur du très long terme.
J'ai un plan en béton.
Sur 20 ans, ça marche pas trop parce que tu restes dans les GG, tu vas quand même pas aller à la Fédération Française de Tennis. En tout cas, allez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est la contre-attaque de Simon Dutin. On s'en fout pas. Jérôme Pinot.
Je m'en fous.
Ok, Mario Bartoli.
Royalement.
Mais c'est des papas, il n'y a que eux qui choisissent les contre-attaques pour gagner. Vous croyez que je choisis des trucs pour gagner?
Oui, en fait, on est bêtes, c'est ça. On veut travailler.
Moi, j'ai envie de savoir comment on dit sextuple,
sextuple.
Allez, véritable première information à vous donner. C'est Louis Bielbiaré qui n'ira pas au Clash pour jouer en Nouvelle-Zélande cet été. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout évidemment pas.
Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Ok, Philippe.
À ton avis.
Bah oui, j'imagine que tu prends. Jérôme.
Juste pour entendre Philippe, je m'en fous pas.
Ok, alors le nouveau prodige du rugby français, meilleur joueur du tournoi des Six Nations, est un garçon poli, ça on le savait. Confirmation hier. Alors hier, après une nouvelle belle prestation de l'UBB face à Pau, avec un essai remarquable.
Tu l'as vu l'essai
Fantastique de Louis Bielbiaré. Incroyable. Eh bien, après la rencontre, les journalistes lui ont demandé s'il voulait absolument faire partie de la tournée, donc en Nouvelle-Zélande en juillet prochain avec le 15 de France. Certains, comme Romain Ntamack, on en a parlé dans cette émission, avaient posé leur candidature. Eh bien, pas lui. On l'écoute.
Ce qui est sûr, c'est qu'on fait des saisons qui sont vraiment longues. Donc, je sais qu'il y a des contrats entre la Ligue et la Fédération. Donc, moi, je ferai ce qu'on me dit de faire. Après, voilà, une tournée en Nouvelle-Zélande, ça peut être sympa aussi, mais prendre du repos, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important au vu de nos saisons. Donc, j'attends de voir ce qu'on me dit de faire et je ferai juste ce qu'on me dit de faire.
Ok, je ferai ce qu'on me dit de faire.
C'est normal, il a 20 ans, il vient juste d'arriver, ça fait 2 minutes qu'il est dans la raquette. Alors bien sûr, c'est un joueur exceptionnel, il a encore marqué un essai, il va à 10 000 à l'heure. Mais des mecs comme Aldrit, Ntamack, Ramos, des mecs qui ont 5 ans de sélection, eux, ils disent, ils ont jamais joué en Nouvelle-Zélande, ils ont jamais joué contre les All Blacks. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on les reçoit au mois de novembre, les All Blacks remplissent les caisses de la Fédération Française de Rugby, ont fait des matchs à guichet fermé.
En envoyant leur meilleure équipe.
En envoyant leur grosse équipe. Pourquoi nous, on va aller en Nouvelle-Zélande avec l'équipe B, avec l'équipe C? Et sincèrement, c'est pour moi dans ma carrière, mes plus beaux souvenirs, c'est la tournée en Nouvelle-Zélande. En plus, bon, à l'époque, on avait joué 8 matchs, on avait fait 2 tests, mais ça serait catastrophique que des mecs comme Ntamack, Aldrit ou Ramos ne jouent jamais en Nouvelle-Zélande.
Ok, voilà. Mais Louis Bielbiaré, ça peut se comprendre.
Il a le temps d'y aller, il est jeune,
il a 20 ans, il veut pas se mettre en guerre avec Fabien Galthié, donc il est normand.
Non,
il est gros d'emploi.
Il a des réponses de normand, par contre.
Ok, Simon, tu voulais réagir.
Non, mais c'est un peu comme Philippe. On peut regretter quand même. C'est un petit peu mythique. C'est vrai que ça passe pour des matchs amicaux pour les gens qui s'intéressent pas vraiment au rugby. Alors qu'en fait, même s'il n'y a pas un vrai trophée physique remis derrière, voilà, aller remporter, disputer une tournée en Nouvelle-Zélande, ça reste, ça laisse une trace dans ta carrière. Et puis, au titre de la construction du groupe, de l'évolution d'une équipe de France, bah, c'est important d'aller se frotter dans ce contexte là. À ces équipes. Alors oui, certes, il y a la récupération, il y a les deals avec les clubs, il y a la fatigue que ça engendre. Mais comme dit Philippe, voilà, il faut envoyer nos meilleurs gars, défier les Néo-Zélandais sur leur terre, et voilà, ça fait progresser l'équipe de France.
Surtout qu'il n'y a pas des tournées en Nouvelle-Zélande tous les étés.
Non, c'est une fois tous les 4-5 ans.
Bah ouais. Ah oui, donc oui. Bon, c'est important, Marion.
Mais totalement. En plus, on avait fait ce débat effectivement avec Philippe était dans l'émission, était venu dans Bartoli Time. Pour moi, c'est essentiel que les joueurs qui soient capés puissent vivre ce genre d'émotion. Et quand j'entends Philippe aujourd'hui en parler, que ça reste pour lui ses meilleurs souvenirs quasiment en carrière, de priver les joueurs français de ces moments-là, je trouverais ça un petit peu ridicule. Alors après, qu'il y ait effectivement des obligations en club, que les joueurs aient des calendriers extrêmement surchargés, que les clubs ne veulent désirent pas récupérer leurs joueurs phares qui soient soit blessés, soit qui mettent plus de temps à revenir en saison, je comprends totalement, mais tu dois aussi prendre en compte pour l'athlète les moments historiques que tu peux vivre, qui peuvent vivre éventuellement sur un terrain, et je pense qu'ils le méritent totalement au vu de ce qu'ils ont été capables de produire, d'y aller. Pour Louis, après, comme le dit Philippe, il est extrêmement jeune, je pense qu'il aura le temps d'en vivre d'autres, des tournées pour aller défier les Blacks, mais là, nos joueurs phares qui ont déjà plus de 50 sélections, je pense que ça serait vraiment extrêmement dommage qu'ils ne puissent pas partir et aller affronter les Blacks avec la meilleure équipe de France possible.
Oui, en plus, que Marion, c'est la première fois que des joueurs cadres montent au créneau depuis 5-6 ans pour dire « on veut ».
Exactement.
Et tout de suite, en plus, après le tour à destination, dans zone mixte, ils commençaient déjà à en parler. Donc, je pense qu'ils l'avaient vraiment en tête depuis un moment.
C'est pour ça qu'à chaque fois que maintenant qu'on va retrouver en conférence de presse un joueur du 15 de France, bah, la question forcément lui sera posée. Et vous avez entendu hier la première réaction de Louis Bielle-Biarré. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui sera bien au départ aujourd'hui de l'Amstel Gold Race. On s'en fout pas. Jérôme Pinault.
Ah, je peux pas s'en foutre.
On peut pas s'en foutre, oui.
Moi, je vais écouter Jérôme.
Ok, merci. De ta diplomatie. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas. Beaucoup d'admiration pour Pauline.
Simon.
Je m'en fous pas.
Enfin, c'est une question.
Je réfléchissais parce que j'ai envie d'écouter Jérôme.
Je signale juste qu'on anime la mission cet après-midi et que je suis à côté de toi pour parler de la mission.
Déjà, et puis, non, mais je me demandais si on dit.
Juste pour ça,
si jamais on s'en fout, est-ce qu'on a quand même le droit d'écouter?
Ah non, mais t'as le droit d'écouter, t'as pas le droit de parler.
Je m'en fous pas, j'ai envie d'écouter.
Je vais pas être sur le.
C'est vrai, c'est vrai.
Si je disais aux auditeurs, bah vous en foutez, vous avez pas le droit d'écouter, vous faites des
questions. J'ai envie d'écouter Jérôme, mais je m'en fous pas non plus.
Alors, Pauline Ferrand-Prévot, vous le savez, lauréate de Paris-Roubaix samedi dernier, deuxième du Tour des Flandres une semaine plus tôt, eh bien prendra bien le départ donc de l'Amstel Gold Race aujourd'hui. Elle sera candidate une nouvelle fois à la victoire finale. C'est vrai que il y a eu un doute parce qu'elle vous parce que Jérôme me regarde bizarrement et je tiens pas ça Jérôme.
On est dans la déstabilisation totale.
Totalement. Donc elle peut gagner là. Elle n'était pas sûre de le faire parce qu'elle voulait aussi récupérer. Puis finalement, elle s'est dit OK, j'y vais.
La décision a été prise cette semaine. En fait, Pauline elle va sur l'Amstel et c'est surtout pour se mesurer à ses adversaires principales dans une autre discipline. Là, elle a gagné de la classique pavée. Elle a été très forte sur Paris-Roubaix.
Mais elle est tombée dans les deux, hein, Tour des Flandres et Paris-Roubaix.
Trois classiques par tour, trois chutes. Elle a montré ses bobos. Mais elle était déjà blessée avant Paris-Roubaix. Elle est retombée à Roubaix, ce qui ne l'a pas empêchée de gagner avec la manière et d'entrer dans la légende, puisque déjà, elle est la première française à gagner Paris-Roubaix chez les femmes. Et on a là maintenant, sur l'Amstel, un autre parterre de concurrente. Et elle va croiser Vollering, qui est son adversaire principal pour prochain Tour de France. La guerre est lancée, la bataille entre les deux lancée. Elles seront les deux grandes favorites du prochain Tour de France féminin. Donc c'est une première étape, et comme elle a la forme, et c'est une classique qui lui convient parfaitement, c'est très technique, c'est beaucoup de petites côtes, les bergs, comme ils disent aux Pays-Bas. Donc on a hâte de la voir, en tout cas elle a toutes ses chances, et finalement elle s'est enlevée toute pression puisqu'elle a gagné Roubaix. Aujourd'hui elle y va un peu pour découvrir, pour se mesurer à cette concurrence-là de puncher-grimpeur dans ces classiques ardennaises. Donc elle a toutes ses chances, on attend de voir ce que ça va donner au niveau de la récup parce qu'elle a été quand même un peu blessée lors de sa chute à Roubaix.
Quel programme en tout cas, parce que la semaine prochaine, il y aura Liège-Bastogne-Liège et elle va disputer Liège-Bastogne-Liège.
Oui, mais ce sont deux courses qui se ressemblent beaucoup. C'est très difficile à faire chez les les hommes, ça l'était chez les femmes. Avec l'apparition des Pogacar et le retour des Ferrand Prévost chez les femmes, ça redevient possible d'enchaîner Ardennaises, enfin, d'enchaîner les Flandriennes et les Ardennaises, qui se faisaient plus jusque-là. Mais les phénomènes s'adaptent à tout et elle est un phénomène.
Et évidemment, on rappelle que Pauline Ferrand-Prévost, son objectif, pas immédiat, mais dans les 2-3 ans, c'est de remporter
le prochain Tour de France. Il ne faut surtout pas oublier cette phrase. Son objectif, c'est de gagner le Tour de France d'ici à 3 saisons. Ne lui tombons pas dessus. À la fin du mois de.
Tu sais quoi?
À la mi-août. Si,
c'est pas notre genre. Je veux dire, si on était là pour critiquer Mbappé au bout de 6 mois.
Exactement.
Franchement,
merci.
On le ferait. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On va ouvrir le chapitre olympique de Marseille qui s'est imposé hier 5-1 face à Montpellier. Quasiment déjà en Ligue 2, cette équipe de Montpellier. Est-ce que la crise est derrière maintenant les joueurs de l'Olympique de Marseille? On vous donnera quelques informations parce que on en parlait hier. Cette mise au vert géante là. Eh bien, ça devrait se faire en Italie pour les Marseillais avec à 4 journées de la fin. Je sais que Philippe est pas très fan. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.